Salut, c'est Steven Jambaud de l'Atelier des médias. On est ensemble pendant 20 minutes à la radio, plus encore si vous avez choisi notre podcast. On poursuit cette semaine notre série de rencontres faites au festival de photojournalisme Visa pour l'image. Il se déroule à Perpignan, dans le sud de la France. Aujourd'hui, vous allez entendre deux journalistes qui parcourent l'Afrique pour la raconter en photo. Leurs images sont notamment publiées dans le prestigieux magazine National Geographic. Le français Pascal Maître n'a cessé de parcourir le Sahel depuis une trentaine d'années. Sa dernière enquête montre avec pudeur, mais énormément de couleurs, les régions du nord du Mali et du nord du Niger, où il continue de se rendre. Vous l'entendrez tout à l'heure, mais tout de suite, laissez-moi vous présenter le photojournaliste sud-africain Brent Stirton. Il a reçu à 11 reprises le World Press Photo. À Perpignan, il présente des photos de rangers, ces hommes et femmes qui luttent contre le braconnage à travers le continent africain. Un journaliste passionné et on ne peut plus déterminé.
atelier@rfi.fr.
Je m'appelle Brent Stirton, je suis photographe pour Getty Images, je travaille principalement pour le magazine National Geographic sur les questions de conservation de l'environnement.
Vous photographiez beaucoup, beaucoup l'Afrique. Est-il facile de raconter l'Afrique par la photo ?
Je pense que l'Afrique devient de plus en plus complexe. Par exemple, en ce moment, je commence à travailler sur la montée du fondamentalisme en Afrique et comment cela va affecter la protection de l'environnement. Et c'est compliqué, vous savez. En Afrique, mais comme à plein d'autres endroits, c'est dur de connaître la vérité sur une problématique à travers le continent. En même temps, je suis sud-africain, j'ai toujours travaillé en Afrique, et je dirais que je travaille sur l'Afrique plus que sur n'importe quel continent. Mais parfois, pour être honnête avec vous, je suis heureux de travailler ailleurs. Je dois m'échapper de certaines choses sur lesquelles je travaille. Vous entendez la même chose de la part des journalistes qui travaillent au Moyen-Orient, en Syrie. Ils disent souvent « J'en ai assez, je dois mettre tout ça de côté et aller ailleurs pour un temps ». Est-ce que c'est facile de faire des reportages en Afrique ? Je ne pense pas qu'il y ait un endroit où ce soit facile. Je pense que plus tu penses en savoir sur un problème, plus tu es probablement ignorant. C'est quelque chose de bizarre. Mais en tant que journaliste, plus on suppose de choses, plus il y a de chances que notre reportage soit erroné.
Et vous êtes d'origine sud-africaine, mais vous vivez aux États-Unis. Est-ce que c'est nécessaire aussi justement d'avoir de la distance avec le continent pour mieux pouvoir le raconter ?
Vous savez, j'habite en Amérique parce que je couvre le monde. Et au final, je vais repartir m'installer en Afrique dans quelques années. Mais parce que je travaille en Asie, en Amérique centrale et latine, enfin je travaille partout, j'habite aux États-Unis parce que par rapport au travail que je fais, c'est là où se situent toutes les publications. Je travaille principalement pour le National Geographic. Mon bureau à Getty Images est à New York. Ça a du sens d'un point de vue professionnel pour moi d'être là-bas. Mais la vérité, c'est que je serais probablement mieux basé à Cape Town ou Johannesburg ou à Nairobi ou à Dakar. C'est probablement là-bas que je devrais être. Mais vous connaissez l'expression « femme heureuse, vie heureuse ». Voilà, ça fait aussi partie de mon dilemme.
Vous en avez parlé tout à l'heure, l'environnement. L'environnement revêt une importance croissante dans le photojournalisme, de plus en plus. Est-ce que c'est un sujet qui, pour vous, doit encore continuer à travailler et sur lequel vous réussissez à vous renouveler en permanence ?
Je pense que lorsqu'on travaille comme journaliste, on comprend que les drames humains sont cycliques. Donc il est probable que les thématiques que tu traites aujourd'hui, tu vas les recroiser. En tant que photographe, un des grands privilèges est de pouvoir construire son travail sur un thème en particulier. Parce qu'après un certain temps, tu commences à voir des schémas récurrents, à voir comment des images peuvent fonctionner ensemble pour rendre les histoires plus complètes. Je souffre aussi d'un déficit de l'attention. Je m'ennuie facilement, donc je suis toujours en train de travailler sur 4 ou 5 histoires en même temps. C'est vraiment comme ça que je travaille. Donc je travaille sur quelque chose et puis je vais bouger pour aller travailler sur autre chose. Et généralement, je finis une série de reportages à peu près en même temps. Mais ce sont des histoires qui vont s'être passées quasiment au même moment. Je suis quelqu'un qui a besoin de faire ça. Je n'arrive pas à rester au même endroit plus de 4 semaines à la suite. En fait, 4 semaines, c'est la limite, d'après ma femme.
J'ai lu dernièrement que vous disiez ne pas être un militant, que vous êtes un journaliste, que vous ne vouliez pas perdre votre objectivité, mais continuer à raconter des histoires. Justement, quand on voit que cela s'accélère, que le réchauffement climatique s'emballe, que l'Amazonie brûle, etc., parfois, ne vous dites-vous pas que, il faudrait aller plus loin et peut-être... faire plus que simplement raconter les histoires et laisser les gens se faire leur opinion.
Je fais des images, c'est mon travail. Mon travail est de rendre des informations sûres et vérifiables. Ensuite, j'espère que les gens qui les utilisent pour quelque chose de bien. Je rends mes images disponibles aux meilleures ONG et aux meilleurs groupes de pression. Mes actions vont de témoigner à des auditions au Congrès jusqu'à aider à lever des fonds pour des ONG qui n'ont aucun financement au milieu de nulle part. C'est ce que je pourrais faire. Mais vous savez, ce que j'ai découvert encore et encore, c'est qu'à l'ère d'Internet, si vous adoptez un certain regard, vous allez aliéner un côté ou un autre. Ça va arriver. Et je veux raconter des histoires de manière aussi complète que possible, parce que je sais que mon audience va être assez intelligente pour se faire sa propre opinion si je présente tous les faits. Parce que si vous ne donnez pas tous les faits, les gens vont le voir, particulièrement à l'ère des fake news, où les gens cooptent les nouvelles ou créent des fake news pour satisfaire leur agenda. Je suis vraiment obsédé par cette idée que je dois m'impliquer pour raconter la vérité du mieux que je peux. Je suis un peu vieux jeu par rapport à ça. Ça ne m'intéresse pas d'être le premier. Ce que je veux, c'est être exhaustif. Les longs formats journalistiques sont un art qui se meurt. Et le résultat, c'est que l'on devient de plus en plus stupide. J'ai le privilège de travailler pour le magazine National Geographic. Et même là, où on a de moins en moins de place et de budget, j'ai toujours plus de temps que la plupart de mes collègues. Donc je me sens vraiment responsable lorsque je fais mes reportages. Je dois vraiment faire mon boulot à fond, rendre compte des phénomènes de A à Z.
Vous pensez aussi que le photojournalisme est sous-estimé, que le monde, en fait, serait sans doute dans une situation bien pire sans le travail des photojournalistes. C'est bien cela ?
Je ne peux pas vraiment imaginer vivre dans un monde qui n'a pas d'enregistrement visuel. L'idée que l'on pourrait simplement laisser l'histoire se passer sans en garder la trace. L'idée que nous pourrions ne pas rassembler l'intelligence pour la montrer dans d'autres parties du monde à ceux qui ne sont pas là pour en faire l'expérience eux-mêmes. L'humanité est collective et nous avons besoin d'informations fiables et vérifiables. Sans ça, on ne peut pas prendre de décision. Vous pouvez voir ce qui se passe avec Trump à la Maison-Blanche, par exemple, où les gens voient les médias comme des ennemis, que les gens essaient d'utiliser des faits contre vous, des faits qu'ils vont fabriquer. Donc je pense que le journalisme n'a jamais été aussi important, mais nous n'avons pas su expliquer son importance. Là-dessus, nous avons fait un boulot déplorable. Je pense que nous supposions jusqu'à un certain point que les gens comprenaient l'importance de ce que l'on fait. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est tragique. C'est un échec de notre part et de la part de nos dirigeants de ne pas avoir communiqué mieux là-dessus. C'est un échec incroyable quand on y pense. On est dans l'industrie de la communication, nous avons tous le sentiment que ce que l'on fait a de la valeur et est nécessaire pour que la société fonctionne, pour que la civilisation continue et progresse. Mais on est parti du principe que les gens comprenaient ce que nous faisions, mais c'est devenu évident qu'une partie des gens ne comprennent pas nécessairement. Mais c'est aussi parce qu'ils font face à un assaut des réseaux sociaux chaque jour et que les opinions ont triomphé sur les faits. Oui, au photojournalisme, au journalisme, à la bonne radio. Je suis fan de toute forme de journalisme sincère.
Et pourtant, la photo peut faire bouger les choses, et votre travail en est un exemple concret. On se souvient notamment de cette photo d'un gorille mort porté par plus d'une douzaine de personnes dans le parc des Virunga, dans l'est de la République démocratique du Congo. C'était en 2007. Trois mois après la publication de cette photo dans Newsweek, 9 pays africains, dont la RDC, signaient un traité contraignant pour protéger les gorilles des montagnes des Virunga. Racontez-nous la situation dans laquelle vous avez pris cette photo et si à ce moment-là vous vous êtes senti vraiment utile.
Je pense que si vous avez de la chance, en tant que photojournaliste, vous aurez un moment dans votre vie qui vous donnera véritablement le sentiment d'avoir un but. Je couvre le Congo depuis un certain temps, et je pense que nous avons pris des images assez fortes des combats et de ce qui arrive à la population locale. Mais parce que cette région a été tellement couverte depuis le génocide rwandais, les gens étaient fatigués de ce qu'il se passait là-bas. Mais nous avons publié ces images dans Newsweek, et la réponse a été phénoménale. À la suite de ça, j'ai compris que les gens voyaient les animaux comme des êtres innocents, et en tant qu'espèce dominante sur cette planète, les hommes se voient comme leurs gardiens, que nous devrions prendre soin d'eux. Mais c'est remarquable pour moi que les gens aient l'air de s'intéresser plus au meurtre de ces animaux qu'au meurtre de millions d'êtres humains. Essentiellement, ce qui m'est apparu, c'est que ce ne sont pas des problèmes distincts. La croissance de la population est telle maintenant que les espèces sauvages et les aires sauvages sont constamment mises en danger par les humains. Les conflits n'existent plus de manière isolée, donc je me suis dit, voilà une autre façon pour moi de parler de la guerre au Congo. C'est assez intéressant parce que les images de cet incident en particulier ont apparemment servi à lever 50 millions de dollars pour la sauvegarde des gorilles. La situation s'est progressivement stabilisée, on compte maintenant plus de 900 gorilles. Pour une fois dans ma vie de photojournaliste, je me suis senti utile. C'est tout ce que vous pouvez espérer de votre carrière. C'est le meilleur sentiment possible, de sentir que vous pouvez rendre service. Donc à partir de là, j'ai essayé de travailler sur des histoires croisant l'homme et l'environnement. Et si vous, en tant qu'être humain, vous passez quelques semaines dans ces endroits, vous allez comprendre qu'il y a une harmonie naturelle des choses et que nous en sommes complètement désynchronisés. On réalise avec des choses comme l'incendie en Amazonie que si on ne respecte pas cet équilibre avec la nature, nous nous condamnons.
Alors vous côtoyez la mort et on l'aura compris, vous êtes beaucoup, beaucoup sur le terrain à prendre des photos et vous êtes devenu papa il y a quelques temps maintenant et j'ai lu que vous aviez déclaré dernièrement « On ne peut pas réparer l'absence d'un père auprès de ses enfants, j'espère un jour lui faire découvrir une rétrospective de mon travail et j'espère que la qualité de ce travail pourra justifier mes absences à ses yeux ».
Vous savez, mon fils a 17 mois et il en est à ce stade où il sait qui je suis. Quand je pars pour aller au travail, maintenant, il pleure. Quand je rentre, il est manifestement très heureux de me voir. C'est une première pour moi, je n'ai jamais vécu ça avant, donc ça m'amène à repenser les choses. C'est nécessaire pour moi d'être parti 8 mois dans l'année. Je suis un mec normal, nous n'avons pas beaucoup d'argent, donc je travaille. Et dans cette profession, je suis devenu vraiment compétent quand je travaille loin. Donc c'est nécessaire pour moi. Et je suis un père plutôt vieux, j'ai 50 ans, et j'ai une relation paternelle avec un certain nombre de groupes avec qui je travaille. Je me soucie d'eux. Donc j'espère qu'un jour, en fin de compte, je pourrai exposer des images qui ont réellement de la valeur pour moi, pour lesquelles je ressens vraiment quelque chose, et que mon fils parcourra cette exposition avec moi, et j'espère qu'il comprendra. C'est comme ça pour tout journaliste qui travaille loin de chez lui. Mais tout est relatif. Quand je suis chez moi, j'y suis à 100%. Et quand je suis loin, je suis là-bas à 100%. Je suis à 100% dans le travail que je suis en train de faire. J'espère que mon fils me pardonnera un peu pour ça. J'espère que si je fais des photos assez bonnes, il comprendra au moins pourquoi je n'étais pas là.
Et votre prochaine mission, où va-t-elle vous emmener ?
Je commence à m'intéresser à la montée du fondamentalisme en Afrique. Le groupe État islamique est de plus en plus actif sur ce continent et je veux essayer de travailler sur les conséquences pour la protection de l'environnement dans le futur.
Good luck for that. Bonne chance à vous et à bientôt, Brent Stirton.
Thanks very much for your time. It's nice to speak to you.
http://atelier.rfi.fr
Il y a des zones en Afrique subsaharienne où peu de journalistes occidentaux se rendent encore, notamment pour des raisons de sécurité. Le photographe français Pascal Maître continue pourtant à se rendre dans le nord du Mali ou dans le nord du Niger. Nous l'avons rencontré à Visa pour l'image.
Mon nom est Pascal Maître, je suis photographe. Je fais ce que l'on appelle du grand magazine, plutôt de la géopolitique, en partie sur l'Afrique. J'ai commencé ma carrière dans le groupe Jeune Afrique, d'où ma connaissance et un peu mon attachement à ce continent. Et là, j'expose à Visa un travail que j'ai fait sur le Sahel, qui pour moi est important. C'est une région que je connais depuis peut-être une trentaine d'années et que je vois tout doucement glisser, se désagréger. Donc j'ai convaincu le National Geographic de faire un travail assez en profondeur sur cette zone et qui est exposée ici à Visa.
Justement, il y a plein de thématiques qui s'affrontent ou qui sont en tout cas en place dans cette région du monde. À la fois, il y a la question de la pauvreté des gens, il y a la question de l'avancée du désert, il y a la question djihadiste, il y a la France qui mène aussi une guerre compliquée dans toute la bande sahélo-saharienne sur 5 pays. Comment réussissez-vous à en rendre compte par la photo ?
Alors, j'y suis allé dans la zone d'Agadez, la zone du Mali. Avant de commencer ce projet, j'y suis allé assez régulièrement. Agadez, j'ai dû y aller 3-4 fois dans les 3 dernières années. Donc je connais vraiment très bien, j'ai couvert la rébellion Touareg et tout ça. Donc j'ai pu voir qu'est-ce que je pouvais construire. Et puis la partie malienne, avant de ce projet-là, je suis allé déjà une fois avec Barkhane. Et l'idée de départ que j'avais proposée au National Geographic, c'était un projet un peu plus vaste. J'avais intégré le lac Tchad et Boko Haram, mais ça faisait beaucoup de choses et ça devenait complexe. D'abord, le journal publie en général maximum 30 pages, donc pour rentrer tout ça, ça faisait des entrées différentes. Donc on a réduit sur la partie Niger-Mali, essentiellement quand même plus sur la partie Niger, parce que les Américains construisent une base à la sortie de la Galès, et évidemment, National Geographic étant un magazine américain, il y avait une raison aussi qu'on s'intéresse à cela. Donc moi, je l'ai construit sur plusieurs choses. Donc vous parlez de l'avancée du désert, effectivement, vous avez l'avancée du désert du côté Niger, vous avez le fleuve Niger qui est en train de se fermer complètement avec les dunes qui tombent dans le fleuve. Le fleuve était déjà peu dragué, mais là maintenant, avec cette partie qui est totalement insécure et totalement aux mains des djihadistes, hein, en dehors des points où il y a l'armée française, il n'est plus du tout entretenu. Donc là, c'est un autre problème d'environnement. Et j'avais inclus le lac Tchad parce que le lac Tchad a évidemment ce problème environnemental de réduction et Boko Haram. Donc j'ai essayé de le faire sur 3-4 niveaux, c'est-à-dire le niveau environnement, le niveau humain avec les migrants, parce que évidemment, même si l'État français et l'Europe a essayé de limiter la migration à partir d'Agadez en donnant 140 millions d'euros au gouvernement nigérien pour qu'il bloque les migrants à Agadez, et pour faire finalement ce que reprochent les gens d'Agadez, c'est qu'ils disent on a mis la frontière de l'Europe à Agadez.
Vous essayez aussi de documenter les conflits intercommunautaires dans le centre du Mali, avec notamment des photos très fortes où on voit des chasseurs dogon de l'ethnie Bambara qui vont combattre des peuls ayant rejoint les islamistes. Et voilà, et ces dogon sont soutenus par le gouvernement de Bamako. Voilà. C'est facile de rendre compte de ça et de les approcher, ces groupes.
Oui, c'est très compliqué de rendre. D'abord, c'est toujours la même chose, le reportage et particulièrement la photographie, parce que la photographie, il faut que vous soyez là. Donc si vous n'avez pas les contacts, si vous n'avez pas les relais, et l'avantage de l'âge, c'est qu'au fil des années, on a construit quand même des relations, des fixeurs et tout cela, qui vous donnent les accès. Après, j'ai eu assez de chance, c'est vrai que c'est une zone sur laquelle je travaillais beaucoup, mais je l'ai fait juste avant qu'il y ait eu les très très grands massacres. Donc je pense que le massacre des 165 peuls
à Bossagou.
Donc je pense que si j'étais venu après, j'aurais pas absolument pas pu le faire.
Justement, votre exposition s'intitule Sahel en danger. Il y a ce mot-là, danger. La bande sahélo-saharienne actuellement, et notamment les pays dans lesquels vous êtes parti en reportage, au Mali, dans le nord du Niger, etc., ce sont des zones qui sont dangereuses, on peut le dire. Quel est votre secret, justement, ou comment faites-vous pour assurer vos arrières et ne pas risquer le pire?
Je pense que ça se construit. C'est-à-dire vous construisez des cercles de sécurité par les gens que vous connaissez. Vous faites attention. Je pense, pour moi, le plus délicat, c'était le centre du Mali. Parce que le Niger, je connais vraiment très très bien. J'avais une escorte quand je suis allé jusqu'à la frontière libyenne. Et j'y suis allé avec des Touaregs que je connais depuis 30 ans, avec qui j'ai couvert. Donc c'est les gens qui connaissent bien la zone, ça. Évidemment, c'est aussi dangereux, parce que je pense un mois après, le chef militaire du Niger, qui contrôle toute cette zone, avec son escorte, a été tué par 14 véhicules qui les ont attaqués dans le même passage. Donc ça reste dangereux. Mais quand même, ça, je pouvais un peu plus maîtriser. Après, il faut faire très attention, c'est-à-dire ne pas dire ce qu'on fait, ne pas rester trop longtemps. Et dans le centre du Mali, j'ai fait très attention, parce que là, vraiment, je pouvais pas le faire avec une escorte ni avec des militaires, parce qu'évidemment, les milices ne m'auraient pas donné accès, j'aurais pas pu avoir accès. Donc là, j'ai été assez prudent. Je suis allé juste faire, quand j'avais un rendez-vous, j'allais, le reste du temps, je restais à l'hôtel. Je n'ai pas ce que je fais d'habitude, j'aime bien me balader, tout ça, dans la zone de Mopti que je connais bien. Je suis très peu sorti, pour éviter d'être exposé, parce que évidemment, dans cette zone-là, qui est quand même... les islamistes sont à 5-6 kilomètres derrière Mopti. Djenné, ils sont à 10 kilomètres. Donc, vous êtes quand même
une cible
vraiment importante. Donc, après, les gens que vous connaissez, vous faites attention, vous allez faire ce que vous voulez, puis vous disparaissez, et faut pas traîner, quoi. Faut être prudent.
Avez-vous eu peur, parfois?
Là, pas du tout. Parce que, comment dire? J'ai bougé quand j'étais à peu près sûr des gens avec qui je le fais. Le plus délicat, c'est quand je suis allé voir les milices Bambara, qui elles, alors j'ai trouvé un jeune gars qui m'avait dit je peux t'aider et tout, et je le connaissais pas très bien, je connaissais quelqu'un qui le connaissait très bien, donc ça c'était une sorte de garantie. Et après, quand on est parti, c'était en dehors de Djenné, à une quinzaine de kilomètres, et effectivement, la personne qui m'accompagnait savait plus le chemin, ça devenait un peu compliqué. Et là, l'inquiétude, c'est pas une peur, hein, mais vous dites tiens, peut-être que le gars est pas fiable et que ça craint un peu, quoi. Et après, une fois que j'ai fait mes photos et je m'en vais. Faut pas traîner, quoi.
Est-ce qu'il y a des médias qui, justement, ne prennent pas votre travail parce qu'ils ne veulent pas prendre le risque qu'il vous arrive quelque chose et d'en être, au moins pour partie, responsable?
Alors, dans le cadre du National Geographic, ils ont une cellule sécurité. Donc, ça a été un peu compliqué de les convaincre. Parce qu'évidemment, maintenant, il y a sécurité, moi je suis un contrat quand je travaille pour eux, il y a assurance, donc plus personne maintenant veut prendre le risque qu'il y ait un problème. Donc j'ai peiné à les convaincre, mais j'ai fini par le faire, mais ça devient quand même plus compliqué.
Y a-t-il des spécificités à raconter en photo l'Afrique?
Je pense pas. Non, je pense que c'est universel. C'est une approche humaine, c'est une approche de contact, c'est une approche de compréhension. Alors en Afrique, ça c'est très particulier. Je pense que c'est important de bien expliquer qu'est-ce que l'on veut faire. Parce qu'il y a toujours une certaine inquiétude, une certaine suspicion. Évidemment, il y a quand même eu, dans pas mal de pays africains, il y a eu beaucoup de mercenaires, beaucoup de types louches. Donc quand vous êtes blanc, d'un certain âge, que vous traînez seul, ça pose des questions. Mais à partir du moment vous expliquez ce que vous faites, que les gens comprennent et surtout qu'ils identifient qui vous êtes et tout, ça désamorce pas mal de tensions.
Pour les auditeurs de RFI qui se trouvent peut-être dans plein milieu de la bande sahélo-saharienne et qui n'ont jamais vu vos photos, il y a-t-il une photo dans cette exposition Sahel en danger que vous exposez à Perpignan dont vous souhaiteriez parler et que vous souhaiteriez et pourriez décrire?
Je pense que j'aimerais décrire la photo du convoi de pick-up où il y a ces pick-up là qui rentrent dans le Ténéré. Donc vous avez une photo, vous avez les montagnes, vous avez cette ligne de pick-up. Ce jour-là, il y en avait 108 avec 20-25 personnes. Et pour moi, c'était un peu triste en même temps, c'est-à-dire de voir toute cette jeunesse africaine qui s'en va. Alors, bien sûr, elle n'a pas beaucoup d'espoir et pas beaucoup de possibilités de travail, mais de voir défiler devant moi toute cette jeunesse installée sur ses pick-up avec un bâton entre les jambes pour pas tomber du pick-up, et si vous tombez, ben, personne vous ramassera, et de voir tout ça partir, et ouais, je trouvais ça assez triste. Je le comprends, évidemment.
Quand vous faites des photos, justement, en Afrique ou ailleurs, vous posez-vous la question de savoir à qui ces photos sont destinées ?
Alors, moi, je suis avant tout photojournaliste. Donc, dans photojournaliste, il y a deux mots. Il y a photo et journaliste. Mais je crois qu'avant tout, je suis journaliste. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de raconter des histoires. Et je travaille uniquement pour la presse. Donc, c'est destiné à être publié et à raconter une histoire, quoi, vraiment.
Et le numérique, vous, quand vous vous déplacez, qu'emmenez-vous comme matériel?
Alors, moi, j'étais un peu un dinosaure, parce que j'ai fait de la diapositive jusqu'en 2008, la Kodachrome. J'ai vraiment mis... J'ai freiné, parce que c'était assez terrible. Je connais bien la couleur en photographie, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et donc, je maîtrisais très bien mes films à diapositive. Et un jour, on vous dit, on n'en fabrique plus. Ah, comment on va faire? Et puis, on vous dit, c'est un peu comme un peintre, on lui dira, bah, t'auras plus tel rouge, t'auras plus telle couleur et tout, tout. Donc, j'étais assez catastrophique. Et de quoi catastrophé? Je suis passé en numérique chez Canon. Et j'ai eu un technicien de Canon qui s'appelle Raphaël Grimaud, qui a été très intelligent, qui m'a pas abreuvé de technologie, qui m'a juste dit qu'est-ce que tu cherches, qu'est-ce qui t'intéresse, et qui m'a fait les ponts, de 5-6 ponts entre l'argentique et le numérique. Et donc je suis, ça a été assez simple finalement, plus simple que je le pensais. Alors je reviendrai jamais, autant j'ai mis du temps à passer en numérique, mais je ne referai jamais le...
Pourquoi ?
La marque. Ah, parce que c'est extraordinaire, les possibilités que vous avez avec le numérique, les possibilités que vous avez de travailler dans certaines conditions, particulièrement où il n'y a pas de lumière, où il y a la nuit, où il y a... C'est-à-dire, le numérique a ouvert des portes, vous a amené dans des tunnels ou dans des endroits que vous ne pouviez pas aborder. J'ai fait un grand travail sur le problème du manque d'électricité en Afrique. J'ai eu la bourse AFD pour cela. Et là, sans le numérique, ça aurait été difficile. J'ai fait des photos à 20 000 ISO, pour les gens qui connaissent un peu la photo, ce qui est incroyable. Et après, j'ai exposé à la MEP, à la Maison Européenne de la Photographie. On a fait des tirages d'1m80 d'après des fichiers de 20 000 ISO. À ce moment-là, j'aurais pas pu le faire dans de bonnes conditions. J'aurais dû flasher, parce qu'évidemment, vivre sans électricité, ça veut dire vivre en grande partie dans le noir. Et le numérique apporte tout cela.
Vous parcourez le monde pour faire des photos, mais prenez-vous aussi des photos en France, et en vous intéressant peut-être à vos passions? On m'a dit que vous aimiez beaucoup le rugby.
Ouais, j'ai joué 18 ans, c'est ma passion. Non, je fais pas du tout de photos. C'est là où je sais que je suis plus journaliste que photographe. Et il m'arrive quelquefois des mésaventures, c'est-à-dire je rentre, je mets mon sac photo dans le placard, et des fois, la veille de partir, je dis, mince, j'aurais dû faire réparer ça. Donc je ne vais pas... c'est vraiment un outil. Et lorsque je fais un reportage, j'ai l'impression d'aller en plongée. C'est-à-dire, je vais commencer et je vais être pendant les 15 jours, 3 semaines, dedans à fond. Mais quand je sors, je passe à autre chose.
Vous mettez en immersion et c'est votre appareil photo qui vous permet d'aller à la rencontre de gens, c'est cela ?
Non. Oui. Oui, dans le sens, sans ça, je le ferais pas comme ça. J'ai une raison d'être. Comme souvent, des fois, comme je travaille assez souvent dans des zones difficiles où la vie des gens est pas très drôle et tout, j'irai pas me balader si je n'avais pas une raison de le faire.
Et exposer toutes ces photos et cette diversité de sujets à Visa pour l'image à Perpignan, c'est une consécration ?
Oui, c'est un immense... C'est d'abord un immense plaisir. C'est ma 9e exposition à Perpignan, donc j'ai beaucoup exposé. Et puis, moi, ce qui me touche le plus à Perpignan, c'est le grand public. C'est-à-dire de voir les personnes venir, de voir la... Encore là, c'est le début, c'est assez calme, mais ça va monter de plus en plus. Et de voir les gens se mettre parfois en ligne derrière chaque photo pour lire les légendes, c'est extraordinaire.
Pensez-vous que vos photos sur le Sahel peuvent faire bouger les choses? Et Avez-vous une idée de savoir si votre travail est vu dans les zones en question ?
Alors, je pense pas qu'il soit vu dans les zones en question. Moi, j'envoie les PDF aux gens avec qui j'ai travaillé, mais ça reste quelque chose de très limité. Faire bouger les choses, ça, je pense pas que d'un coup, ça fait bouger. Après, c'est toujours très souterrain. Ce que ça peut faire bouger, ça peut être un apport à quelque chose qui déclenchera un moment. Alors il y a des fois, il y a des sujets qui font encore plus bouger les choses. Le sujet que j'ai fait sur le manque d'électricité en Afrique, pour où j'ai eu la bourse AFD.
Donc l'Agence française de développement.
On a fait un livre, j'en ai fait un livre. Et Rémi Rioux, le président de l'Agence française de développement, lorsqu'il va en Afrique et qu'il aborde ce sujet, il offre ce livre aux dirigeants qui évidemment connaissent ce problème, mais lorsqu'il est mis en image, on se rend peut-être mieux compte de la portée. Donc ça, c'est une, je pense que ça apporte un élément d'information qui peut-être sensibiliser ou faire bouger les choses.
Ça a de l'impact.
Ça a de l'impact. Mais je crois pas directement, c'est très très rare que ça puisse faire basculer. Il y a quelques photos dans l'histoire où l'on sait, mais moi je fais pas du news. Donc c'est plus des photos de news qui ont fait basculer les choses, quoi.
Donc vous faites du magazine sur des thèmes qui sont malgré tout d'actualité. Vous avez envie de continuer à prendre le temps.
Mais j'ai la chance d'avoir des gens qui m'ont donné le temps. Et ça a un gros avantage. C'est que ça vous évite de faire des raccourcis et de tomber dans des choses un peu caricaturales. Donc quand vous prenez une histoire là comme le Sahel, on voit bien qu'il y a différents tiroirs. Et pour aborder ces différents tiroirs, il faut du temps, parce qu'il faut faire les contacts pour chaque pièce du puzzle qui est différent. Quand vous faites un sujet mono-thème, une fois que vous avez mis en place, vous lui déroulez. Ces sujets assez larges comme cela demandent beaucoup de temps et d'énergie. Donc si vous n'avez pas le temps, vous allez faire quelque chose de très très caricatural. Et vous n'allez peut-être pas pouvoir expliquer aux gens toute la complexité. Parce qu'évidemment, tout est très complexe.
Merci Pascal Maître.
Merci beaucoup. Et c'est un grand plaisir de parler à RFI.
C'est tout pour cette semaine dans l'Atelier des médias. Un grand merci à Simon De Creuse qui a réalisé l'émission que vous venez d'entendre et à Camille Sarrazin pour son coup de main pour traduire les propos de Brent Stirton. N'oubliez pas de partager cette émission que vous pouvez retrouver en version longue sur notre podcast. Je m'appelle Steven Jambeau et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure à la radio, pour un nouvel épisode de l'Atelier des médias.
RFI.